I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu. C'est une émission où on parle généralement de l'actu gaming avec des invités. On s'amuse bien, on passe un bon moment la plupart du temps. Mais aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu particulier puisque on va passer tout l'épisode, ou plutôt je vais passer tout l'épisode, à essayer de vous résumer et d'expliquer, de réfléchir sur les récentes accusations sur la société Activision Blizzard, et plus spécifiquement Blizzard Entertainment, qui sont des accusations de harcèlement, de discrimination envers les employés, et qui se sont fait jour il y a 10-15 jours à peu près, et qui animent beaucoup la toile dans l'univers du gaming, ou en tout cas dans les communautés des joueurs de Blizzard depuis. Je m'appelle Patrick Béja et je vais essayer de vous résumer un petit peu tout ce qui s'est passé, pourquoi c'est aussi important, pourquoi ça fait autant de bruit. Et puis, on va réfléchir, ou je vais essayer de vous livrer mes réflexions personnelles sur le sujet. Et pour moi, c'est vraiment un événement suffisamment important pour que tout le monde s'arrête et y réfléchisse, même si on n'est pas particulièrement intéressé ou fan des jeux Blizzard. Donc j'espère que vous allez écouter l'épisode jusqu'au bout. Si vous vous intéressez aux jeux vidéo et à l'industrie du jeu vidéo, je pense que c'est important. Et je vais vous donner une petite note et un petit peu de contexte avant de me lancer dans les explications spécifiques. Je m'appelle Patrick Béja, comme je vous le disais. Je suis, pour ceux qui ne le savent pas, podcasteur depuis plus de 15 ans. Et je suis assez proche de la communauté de Blizzard. On peut même dire que je suis extrêmement proche, puisque j'ai travaillé dans la société pendant 5 ans. J'ai même lancé ma carrière de podcasteur en amateur à l'époque, en 2006, en couvrant le jeu World of Warcraft. À la suite de ça, au bout de 3 ans, j'ai eu des contacts avec les gens de Blizzard. Je suis allé travailler chez eux en Europe. Et 5 ans plus tard, je les ai quittés en très bons termes et j'ai lancé ma carrière de podcasteur que vous connaissez aujourd'hui, financée essentiellement par les auditeurs, donc de podcasteurs indépendants. Mais mon parcours est intimement lié à l'univers et la communauté de Blizzard. J'ai continué à les suivre de très près. Je suis allé régulièrement à leur conférence annuelle, la BlizzCon, etc. etc. Donc je suis très proche de cet univers. Et donc, d'une certaine manière, évidemment, ça m'affecte un petit peu plus ce qui s'est passé, que je vais détailler dans un instant, m'affecte un petit peu plus que d'autres joueurs, mais je crois que ça a vraiment été un choc pour de nombreux joueurs, peut-être un petit peu moins pour de nombreuses joueuses, et on va en parler justement. Et au-delà de ça, ça a une portée sur l'ensemble de l'industrie, et même encore plus au-delà de ça, Blizzard est une société que personne dans l'industrie ne peut ignorer. Ils ont une influence énorme et ils ont une notoriété énorme et une image qui est particulière aussi. Donc tout ça joue et tout ça fait que, au-delà même du plus important, c'est-à-dire le scandale lui-même, eh ben tout ça a une portée qui n'est pas négligeable et je pense qu'il est important d'en parler. Donc, pour ceux qui ont suivi l'affaire de très loin ou peut-être même qui n'en ont pas vraiment entendu parler, je vais essayer dans un premier temps de vous faire un résumé un petit peu rapide parce qu'on en a beaucoup parlé partout, mais en détail de ce qui s'est passé spécifiquement et puis après je vous livrerai mes réflexions sur le sujet. Le 22 juillet, un département administratif de l'État de Californie qui s'appelle le Department of Fair Employment and Housing, donc le département des habitations et de l'emploi juste, fair, a lancé un procès contre Activision Blizzard pour faits de discrimination et de harcèlement sexuel qui détaille une série de problèmes. Ça fait suite à une enquête de 2 ans, donc qui est quelque chose de très sérieux. Et en plus de ça, le département en question est un département qui ne lance pas des procès quand ils n'ont pas un cas très, très solide. Ils ont des centaines de plaintes qu'ils étudient sérieusement et ils lancent quelque chose comme une poignée de procès, ça se compte sur les doigts d'une main chaque année. Donc c'est quelque chose de très très sérieux et les peu de détails qu'ils donnent dans le document du procès, puisqu'évidemment ils gardent les détails pour le procès lui-même, sont assez affligeants déjà en eux-mêmes, sont assez atterrants. Moi j'ai découvert ça donc le 22 juillet. Oui, je précise aussi, je mettrai quelques liens vers mon compte Twitter, les threads Twitter où j'ai détaillé tout ça, si vous voulez plus d'informations précises et les liens vers les articles qui détaillent tout ça. Donc j'inclurai ça dans les notes de l'émission si vous voulez voir plus en détail. Mais le procès en lui-même, il y a quelques noms qui sont donnés et des détails de ce dont ils sont accusés, des choses comme du harcèlement au travail, et on va rentrer dans certains des détails, mais du harcèlement au travail, du harcèlement dans les événements de la société, des gens qui boivent beaucoup et se mettent à passer de station de travail à station de travail en faisant des suggestions diverses aux employés essentiellement femmes, des femmes qui ne sont pas promues de la même manière que les hommes, quand j'en parle comme ça, ça peut sembler malheureusement standard. Il faut bien comprendre que ça va plus loin que ce qu'on a vu par ailleurs encore, alors que dans cette industrie, c'est un problème qui est notable. Il y a certains managers qui, on a eu des témoignages d'ailleurs de personnes que je connais personnellement, qui disaient à une soirée, un manager qui renverse de l'alcool par erreur sur le bras de quelqu'un et qui va se mettre à lécher l'alcool du bras. On a des gens, je vais vous en parler maintenant, c'est sorti plus tard, mais des gens qui disent qu'il y a dans les salles d'allaitement, des hommes qui rentraient dans la salle pendant que les femmes étaient en train d'allaiter et qui les regardaient intensément jusqu'à ce qu'elles hurlent pour qu'elles sortent. Et la société a dû installer des locks, du pouvoir fermer à clé, des clés sur les portes pour que ça ne se produise plus. Ils ont été obligés de limiter la quantité d'alcool à 2 verres par personne pendant les soirées. Enfin, il y a tout un tas, il y a des accusations spécifiques sur Alex Afrasiabi qui était jusqu'à il y a un an l'un des employés clés de l'équipe de World of Warcraft, qui est l'un des plus gros jeux de la société, qui a été accusé de coucher avec des employés à plusieurs reprises, et pas juste de coucher de manière consensuelle, mais de les de leur mettre une pression pour qu'elle couche avec lui et qu'il est forcé en quelque sorte, de par sa position dans l'entreprise, à coucher avec lui, ou même avec tout le panel que vous pouvez imaginer, des femmes qui se font attraper par des collègues hommes, évidemment de manière non consensuelle. Il y a des hommes qui jouent pendant des heures au boulot alors que les femmes font tout le boulot. Et là encore, c'est quelque chose que j'en reparlerai dans un moment, mais vu de maintenant, je l'ai constaté moi-même. Donc il y a tous ces éléments qui font que ça dépeint un tableau assez horrifiant de Blizzard Entertainment, et je vais continuer à expliquer la manière dont ça s'est passé après les jours suivants, après ces révélations, parce que ça n'est que le début, et c'est déjà assez horrifiant, mais ça n'est que le début. Mais pour expliquer aux gens qui ne sont pas proches de la société Blizzard pourquoi c'est à ce point cataclysmique, il faut bien comprendre que Blizzard avait une position très particulière dans le monde du jeu vidéo. On sait, je crois, depuis quelques années, à quel point l'industrie du jeu vidéo, et à vrai dire au-delà de l'industrie du jeu vidéo, mais en particulier, puisque c'est de ça qu'on parle, et de Blizzard spécifiquement qu'on parle aujourd'hui, mais l'industrie a des problèmes de misogynie, de sexisme, de harcèlement. Et on l'a vu dans les différentes affaires qui ont éclaté ces dernières années, notamment chez Riot Games et Ubisoft l'année dernière, dont on avait assez longuement parlé au moment où, ça avait été révélé. On sait à quel point l'industrie est criblée de problèmes. Le truc, c'est que Blizzard faisait figure d'exception dans ce domaine jusqu'à il y a 15 jours. Malgré tous les autres problèmes dont on aurait pu parler, enfin dont on parle régulièrement avec Activision Blizzard et Blizzard sur la question de la monétisation des jeux, les jeux qui sortent à tel ou tel moment, qui sortent, qui sont publiés de manière plus ou moins satisfaisante, toutes les questions des jeux eux-mêmes, pour ce qui est de l'image et de l'identité, Blizzard était quand même sur un piédestal. On avait une impression assez forte et pour, je pense, certains qui étaient justifiables, qu'ils avaient des valeurs et qu'ils se tenaient à ces valeurs. On a eu, et c'est pas juste des mots en l'air, on a vu par exemple, pour donner deux exemples simples, on a vu Mike Morhaime, le président qui aujourd'hui n'est plus président de la société, donc on a vu Mike Morhaime dire au moment du Gamergate en 2014, dire quelque chose contre le Gamergate à l'ouverture de la BlizzCon de cette année-là. Et ça peut sembler dérisoire, peut-être encore plus vu d'ici, mais il faut bien se souvenir qu'en 2014, à l'époque, l'industrie ne touchait pas au Gamergate du tout, et en particulier chez les grands studios. C'était un sujet qu'ils voulaient absolument éviter d'évoquer par peur de se faire ensevelir sous des attaques toxiques des gens qui participaient à ce débat. Il faut se souvenir qu'à l'époque, c'était vraiment un tremblement de terre dans toute l'industrie et qui opposait les gens qui étaient pour plus de représentation dans les jeux vidéo et ceux qui étaient contre. Je pense que l'histoire est en train de prouver que ceux qui étaient contre n'ont pas vraiment raison. Et c'était déjà clair à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, Mike Morhaime avait dit dans son ouverture de la BlizzCon, il y a des choses qui se passent dans le domaine du jeu vidéo. Il n'avait pas spécifiquement dit Gamergate, mais il avait mentionné le problème. Et ça, c'était quelque chose d'unique dans l'industrie. Je n'ai pas souvenir que qui que ce soit d'autre chez les grands éditeurs l'ait fait. Et donc, pour moi, ça avait un certain poids. Il prenait position. Il y a aussi eu, encore un exemple, le lancement, l'annonce la même année d'Overwatch, qui est un jeu où la représentativité des minorités est un élément essentiel. Il y a vraiment une parité homme-femme à peu près, je crois, et puis une représentativité de tout type de minorité qui est un élément clé du jeu. Et c'est une démarche qui, à mon sens, est active et volontaire et qui montrait l'engagement, parce que c'est par ce type de choses qu'on peut changer les choses. En tout cas, c'est ce dont on parlait à l'époque. Et le développement du jeu avait commencé avant le débat du Gamergate lui-même. Mais en tout cas, c'est de cette manière qu'on peut espérer, en partie, changer les choses. En tout cas, ça fait partie du puzzle pour résoudre ces problèmes. Et donc, ce sont deux exemples, mais on pourrait en donner d'autres, qui montrent que pour certains fans, Blizzard avait cette image de « nous, on est un petit peu différents, on a des valeurs, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tel ou tel élément de la manière dont on gère nos jeux, mais sur ce point, on peut tomber d'accord, on a ces valeurs. » Et donc, évidemment, quand je dis tout ça, aujourd'hui, on ne peut que secouer la tête, puisqu'on se rend compte que ça n'est qu'une, je ne vais pas dire qu'une façade, mais clairement, il y avait au sein de l'entreprise des problèmes qui étaient, et encore une fois, je ne rentre pas dans tous les détails, j'en donnerai quelques autres plus tard peut-être, mais c'est encore pire que ce qu'on a vu, ou en tout cas c'est mon impression, encore pire que ce qu'on a vu chez Riot Games ou chez Ubisoft ou chez d'autres. C'est-à-dire qu'on passe de ce piédestal à quelque chose de pire que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, c'est une déconvenue qui est assez violente. Et à ce stade, je voudrais également mentionner le fait que on a eu, de la part de la plupart des hommes qui font partie de la communauté, une situation de choc et d'incrédulité qui était palpable dans la communauté. Je l'ai vraiment senti. Et en même temps, de la part de toutes les femmes qui font partie de cette communauté, une réaction de « bah oui, mais vous pensiez quoi ?» en fait. Et même au-delà de l'industrie, comme je le disais, on sait que dans l'industrie, c'était, c'est un problème qui existe et qui est très présent. Dans le cas de Blizzard spécifiquement, il y a beaucoup de femmes qui ont dit « oui, mais bah oui, bien sûr ». Non seulement, bien sûr, nous, on est habitués, mais en plus, on en a parlé régulièrement et vous tombez encore des nues. Et du coup, je dis homme-femme, mais on pourrait évidemment plus détailler la chose. Et je pense que si on détaille, même si ça va faire un petit peu mal à certains, on parle d'hommes blancs cisgenres et de tout le reste. Encore une fois, c'est cela, et là, je ne porte pas de jugement de valeur sur ces choses-là, je le ferai peut-être un petit peu tout à l'heure, mais on constate simplement, nous, moi et mes pères, bah, on a été surpris et choqués et dévastés de cette nouvelle, alors que tous les autres disaient « bah oui ». Et ça, c'est notable, et je vais en reparler dans un tout petit moment. Et on a vu, après, à la suite de cette annonce du procès, deux choses qui se sont passées immédiatement après. D'abord, une réaction de Activision Blizzard qui n'était pas signée, par qui que ce soit, et qui était affligeante. Affligeante en ce sens qu'elle niait la réalité de la chose à demi-mot, pas vraiment. En fait, ce qu'il disait, c'était d'une part de toute façon, ça, c'est des histoires qui sont vieilles, qui sont déformées, qui sont pas réelles et qui n'ont plus rien à voir aujourd'hui. Alors, d'une part, il disait, oui, c'est pas vrai, mais en même temps, en gros, ça donnait un petit peu l'impression à demi-mot qu'ils avaient nettoyé tout ça ces dernières années. Déjà, ça, c'est pas très clean comme manière d'approcher les choses. Et en plus de ça, ils se sont mis à insulter. Vraiment, je pense qu'on peut le dire, à insulter le département, le DFEH, le département qui lançait le procès, en disant qu'ils étaient des administrateurs qui ne sont redevables à personne, qui lancent des actions irresponsables, etc., etc. En gros, ils nient la réalité de la situation. Et dans le même temps, c'était une réponse vraiment agressive, violente, qui d'ailleurs a été, on pense, puisque je vais en parler dans un instant, mais a été gérée par une femme qui s'appelle Frances Townsend, qui a été engagée par Blizzard il y a 4 mois, par Activision Blizzard il y a environ 4 mois, et qui faisait anciennement partie de l'administration Bush sous les scandales de torture à Abu Ghraib et tout ça, et qui défendaient ces choses-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments politiques là-dedans aussi, enfin beaucoup non, mais sur cette personne spécifiquement, et je crois que ça a contribué à l'alimentation de la frustration, non pas sa position, mais la nature de la réponse, qui était niée, insultée, attaquée, et de fait, nier la réalité de la situation pour les employés de Blizzard Entertainment. Dans le même temps, je disais, il y a deux choses qui se sont passées. Dans le même temps, comme souvent dans ces situations, ça a complètement délié les langues et ça a poussé, quand je vais dire une énorme partie des femmes, je crois que je ne rends pas justice à ce qui s'est passé. Ça a poussé toutes les femmes, que je connais en tout cas, toutes les femmes qui ont à voir avec Blizzard, soit parce qu'elles sont employées, soit parce qu'elles font partie de la communauté, qu'elles gèrent des sites web, ou qu'elles sont streameuses ou youtubeuses, ce genre de choses, toutes les femmes à venir témoigner également. Et c'est pas témoigner genre « ah oui, c'était il y a 5 ans, j'ai eu un problème ». Non, c'est témoigner sur le fait que c'est une, ce qu'ils appellent dans le procès, une culture, une bro-culture, une frat-boy culture, de mecs qui se tapent sur l'épaule et qui font des blagues vaseuses. Et ça, c'est les choses les moins problématiques, évidemment. On en a parlé, il y a eu des agressions physiques, il y a eu des morales, du harcèlement, de la discrimination, des problèmes de promotion, etc. etc. Et donc, toutes sont venues témoigner. Et quand je dis toutes, C'est vraiment, je crois qu'il n'y a pas une seule femme que je connais dans ces cercles qui n'en a pas témoigné et qui n'a pas dit « bah oui, il y a ça, il s'est passé ça ». Moi, quand on m'a fait ma revue annuelle, bah, on m'a dit « oh bah t'es trop émotionnel, ah bah il faut que tu fasses plus attention à ce que tu dis, etc. » Alors que les hommes n'étaient pas du tout jugés de la même manière. Des femmes qui parlaient de blagues de blagues de viol en plein meeting, enfin bref, c'est... Atterrant, et encore une fois, elles ont toutes témoigné. Donc, il y a vraiment ce monde qui s'est brisé en deux entre les gens dont c'était le quotidien, vraiment, et puis plein de gens qui l'ignoraient, et encore une fois, je vais en parler dans un instant, qui l'ignoraient et qui l'ont découvert à ce moment. Mais le monde dont c'était le quotidien, c'était une énorme partie de la communauté. Et donc, il est absolument impossible de nier la réalité de la chose. Je crois qu'on a tendance parfois, ou en tout cas certains, ont tendance à dire « ah oui, mais attention, il ne faut pas juger la chose avant que la justice ait rendu son jugement ». Et dans 99,9% des cas, oui, c'est vrai. Je crois qu'on est dans ces situations. On pourrait même éventuellement arguer du fait que s'il y a une personne dans le cadre d'un scandale qui vient pour dire ça et qu'il y a en gros de l'argent à se faire, à la limite de la limite, on pourrait dire « ok, attends une seconde, on va voir ». Bon, il y a eu des cas, en tout cas, c'est indéniable, où des personnes ont été accusées de choses dont elles ont finalement été innocentées. Ok, mettons ça de côté une seconde, parce que ce n'est pas du tout le cas ici. Et même ces cas-là sont problématiques. Hein. Je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment que ces cas-là peuvent être problématiques et que, d'une manière générale, il faut croire les victimes. Mais là, on est dans une situation qui est complètement différente et dans laquelle ce principe de « il faut attendre que la justice fasse son travail », est plus compliqué à appliquer parce qu'on a une telle avalanche de preuves ou en tout cas de témoignages que la réalité est assez claire. Donc certains qui ont peut-être suivi la chose d'un petit peu loin se disaient « ah oui, mais attends, il faut laisser faire la justice faire son travail ». Et certes, évidemment, il faut laisser la justice faire son travail, mais on est dans un cas où il est difficile de ne pas de nier la réalité de la chose tellement la réalité submerge tout le monde. On a eu donc, après cette réaction non signée de Blizzard, d'Activision Blizzard plutôt, une réaction de Jay Allenbrack, qui est aujourd'hui le président de Blizzard, qui a été beaucoup plus dans le bon sens, c'est-à-dire reconnaître le problème, reconnaître que les gens devraient ont le droit d'être dans une société où ils ne se sentent pas en danger en permanence, ce qui était vraiment le cas et qui reste le cas aujourd'hui, parce que les témoignages, je ne l'ai pas précisé, mais ce n'est pas que des choses qui datent d'il y a longtemps, c'est des choses qui continuent encore aujourd'hui. Et il dit, nous allons faire ce qu'il faut, je vous promets, nous allons mettre en place des choses pour corriger le problème, etc. etc. En gros, le genre de message, la manière dont je l'ai qualifié, c'est le genre de message qui est absolument nécessaire à donner dans un premier temps, dans une première réponse à ce genre de problème, et qui ne veut en même temps absolument rien dire tant qu'il n'est pas suivi d'actes. Je crois que les deux sont vrais. C'est le genre de messages qui sont nécessaires, sans lesquels on ne peut pas avancer, et qui doivent être suivis d'actes concrets et mesurables, sans quoi le message ne veut rien dire. Mais bon, le message a été livré tel quel. Deux notes sur le message tout de même. D'abord, il y a une référence assez étrange à un ancêtre de Jay Allenbrack qui était, en gros, qui se battait pour que les femmes soient vues comme égales à lui, enfin comme égales aux hommes. Et il dit « Ah, j'en ai parlé à Bobby Kotick quand on parlait du boulot ». Et je crois que peut-être dans sa tête, ça avait un certain sens. Dans la réalité, quand on lit le message, ça fait un peu « Oui, mais ma grand-mère, c'était une femme, donc je comprends bien les femmes ». Et bon, bref, c'est une petite partie du truc, mais ça sonne un petit peu étrange. L'autre problème qu'il y a dans son message, c'est qu'il dit j'ai un dédain profond pour la bro-culture et j'ai passé ma carrière à me battre contre. Le problème, et là on arrive à un autre élément complètement abracadabrantesque de cette histoire, c'est une vidéo qui a été repostée à la suite de cette histoire sur une vidéo d'un Q&A à la BlizzCon de 2010 où une femme a demandé à un panel de 6 développeurs, elle a posé une question en live, elle demande, c'est bien qu'on ait des femmes fortes dans World of Warcraft, mais est-ce qu'on pourrait les avoir habillées normalement et pas comme si elles sortaient d'un catalogue de Victoria's Secret, qui est un catalogue de sous-vêtements féminins, très connu aux États-Unis. Et la réaction de ces 6 hommes, parmi lesquels il y a des développeurs qui sont encore très connus, qui soient ou non à Blizzard, et Jay Allen Brack, et la personne qui a été citée dans le procès, Alex Afrasiabi, qui est aujourd'hui plus à Blizzard, parce qu'il a été clairement poussé dehors et qu'on lui a donné quelques millions sans doute pour qu'il aille vivre à Hawaï. C'est même pas une caricature, c'est vrai, il est aujourd'hui à Hawaï avec sa femme visiblement, et il se la coule douce. Mais bon, il a été poussé dehors à la suite, semble-t-il, enfin possiblement de l'enquête dont était au courant Blizzard et qui donc a poussé la société à en parler avec Afrasiabi et à enfin le mettre dehors, mais ils l'ont fait évidemment discrètement et sans scandale. Et sans rendre les problèmes publics, bon, bref, ça, on pourrait en discuter longuement, mais donc, ce panel de développeurs prend la question, est-ce qu'on pourrait avoir des femmes qui ne sont pas habillées comme des modèles de Victoria's Secret ? Ils disent, et Afrasiabi en particulier, dit, « Ah, mais bien sûr, tu voudrais qu'elle sorte de quel catalogue ?» De lingerie, sous-entendu. Et s'ensuit une petite discussion de 2 minutes, 1 ou 2 minutes sur « Ah, mais c'est marrant de discuter de quel catalogue on pourrait utiliser. Ah oui, mais pour tel type de personnage, on pourrait utiliser tel truc. » Et il y a quelques membres du panel qui sont silencieux, qui disent rien. Mais Jay Allen Brack en rajoute un petit peu. Il est complètement dans le truc. Et donc, ça donne une situation complètement ubuesque où la femme, qui d'ailleurs a témoigné chez Kotaku hier, je crois, elle est complètement mal à l'aise. Entre parenthèses, quand elle pose sa question, il y a quelques voix qui l'applaudissent, et on sent que c'est des voix de femmes. Et à la suite de ça, une seconde plus tard, un énorme boue qui monte de la foule, on sent bien que c'est des voix d'hommes. Donc, toute cette situation qui date de 2010, rappelons-le, est complètement vomitive, et je parlerai de ça dans un moment quand je vous parlerai de mes réflexions, mais complètement vomitive. Et Jay Allen Brack y a pris part, et bon, c'était 2010, ok, mais voilà. Suite à ça, et je laisse mes interprétations pour dans un moment, je continue sur la chronologie, suite à ça, si vous pensiez que c'était terminé, c'est pas terminé, hein, et c'est pour expliquer à quel point cette histoire a pris de l'ampleur. La fameuse Frances Townsend, ancienne de l'administration Bush, poste un message officiel public de Activision Blizzard qui répète en gros ce qui était dans le premier message de la société où elle insulte en gros les employés du gouvernement qui gèrent la FDEH et qui lance ce procès. Elle dit en plus, moi, de toute ma carrière à Activision Blizzard, elle y est depuis 4 mois, hein, je n'ai jamais vécu ce genre de choses, j'ai traité avec beaucoup de respect et je n'ai jamais eu de problème. Ce qui est... Bon. Elle dit également « Ah, nous voulons avoir un impact positif sur le monde dans nos jeux, nous voulons faire de grandes choses dans nos jeux, dans notre impact sur la société et dans notre environnement de travail. Et nous avons des principes importants et nous avons investi dans le passé pour des mesures d'égalité pour tous les employés et nous sommes engagés dans ce sens, ce qui est en décalage complet avec ce qui se passe autour d'elle. » Qui est hallucinant et d'ailleurs qui fait référence à plusieurs choses qui sont extrêmement problématiques. Par exemple, on dit souvent qu'il faut que les hommes et les femmes soient payés de la même manière. Et les gens disent dans ces conditions, dans ces situations, il faut que les payes soient attribuées par le mérite. Et le mérite passe par les évaluations. Et les évaluations, c'est le maillon faible, puisqu'on l'a constaté, et encore une fois, il y a de nombreuses femmes qui se sont, qui ont témoigné et qui ont montré à quel point c'était complètement irréaliste. Enfin, c'est un problème qui est compliqué à résoudre, mais dans ce cas-là, qui ne fonctionnait pas, puisqu'on voit des femmes aujourd'hui de Blizzard Entertainment qui témoignent de la manière dont leurs évaluations de leurs performances sont faites. Et on a des évaluations qui sont ubuesques, et même moi, personnellement, si vous ne voulez pas croire la manière dont ça s'est présenté sur Internet, parce qu'on ne peut pas croire ce qui est sur Internet, j'ai moi des expériences de femmes qui travaillaient, parce que je travaillais avec elles, je le savais, hyper durement, beaucoup mieux que les hommes de l'équipe, et qui restaient à des positions plus basses. Et encore une fois, on a des témoignages de, d'hommes et de femmes enfin, qui montrent que les hommes étaient en train de jouer 70% du temps à des jeux vidéo et que les femmes faisaient tout le boulot. Et moi, de mon expérience, c'est vrai que la personne sur laquelle je pouvais le mieux compter quand je travaillais depuis l'Europe avec les équipes américaines, eh ben, c'était, en tout cas, spécifiquement, je vous parle d'un cas que j'ai vécu moi-même, c'était une femme, c'est certain. Et bon, je reviendrai là-dessus. Donc, le problème de l'évaluation des performances, c'est bien beau, mais dans la réalité, si le système est pourri à la base, eh ben, ça n'aide pas. Continuons, continuons. Suite à cette déclaration de Frances Townsend, les choses ont vraiment commencé à bouger du côté de Blizzard elle-même, de la société de Blizzard, en ce sens que les employés, hommes et femmes, se sont réunis pour organiser une sorte de manifestation, ce qui s'appelle un walkout, c'est-à-dire qu'ils sortent de la société, ils ne travaillent pas. Et pendant tous ces jours-là, là on parle de l'espace de 4 jours, hein, pendant ces jours-là, des employés de Blizzard disaient « mais on ne bosse plus là, on est tous en train de réfléchir, il n'y a quasiment aucun boulot qui se fait sur World of Warcraft, on est tous en train de processer toute cette histoire, de réfléchir à ce qu'on peut faire. » Et donc ils font un walkout, donc ils sortent de la société, ils se rejoignent devant les bureaux, rejoints d'ailleurs par d'autres employés qui étaient d'anciens employés ou des employés qui travaillaient depuis la maison, et ils font une sorte de mini-manifestation devant les bureaux, et ils circulent une lettre ouverte à la société qui est signée par de très nombreux employés et d'anciens employés, dont je fais partie d'ailleurs, j'ai signé la lettre ouverte, qui renie les déclarations de Townsend et qui a une liste d'exigences diverses qui vont de plus de transparence dans les processus d'emploi et de promotion à des audits externes, etc. Donc, il y a toute une série de demandes. Et je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais vraiment, pendant ces 10 jours, je peux vous assurer que j'étais hors de moi, 24 heures sur 24. Et je sentais que c'était la situation de la plupart des employés et des gens de la communauté. On en a beaucoup parlé entre nous et on était tous furieux. Donc là, si j'essaye, la raison pour laquelle je le dis, c'est que si j'essaye de montrer les choses, d'expliquer les choses de manière factuelle, je peux vous assurer qu'en revoyant mes tweets, vous pourrez aller les consulter vous-même, je repense à quel point tout ça a été énervant à un point difficile à exprimer. Et dans le même temps, je pense à, et j'en parlerai là encore, à quel point nous, les hommes, on était énervés, frustrés et choqués. Et bah, ce n'était pas du tout le cas des femmes, et c'est important à noter. Bref, ils organisent le walkout, envoient la lettre ouverte et continuent à réfléchir à la manière dont ils peuvent vraiment organiser les choses en dehors de ce qui se passe au niveau du management d'Activision Blizzard, et même contre le management d'Activision Blizzard. Mike Morhaime, qui est l'ancien président de Blizzard et fondateur de Blizzard, l'un des fondateurs, le fondateur principal, publie une lettre qui est dans le ton de ce que j'expliquais tout à l'heure, sans doute sans les petites fautes, je dirais, de la lettre de Jay Allenbrack. La lettre de Jay Allenbrack était une lettre interne, mais qui a été leakée au public. Mais comme toujours dans ce genre de cas, quand il y a une lettre interne, on part du principe qu'elle va être leakée. Donc, on l'écrit comme quelque chose de public. Donc, ça, il faut le noter aussi. Mais Mike Morhaime publie sur Twitter, il n'est plus chez Blizzard depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Il a fondé sa propre société, une nouvelle société qui s'appelle Dreamhaven. Comme beaucoup d'employés de Blizzard et de leaders de Blizzard qui ont quitté la société ces 2 ou 3 ou 4 dernières années. Donc, Mike Morhaime publie une petite lettre où il s'excuse, il prend sa responsabilité, il dit qu'il a honte. Et donc, c'est là encore, et il dit à quel point il pensait qu'il avait des valeurs et tout ça a été balayé, etc., etc. Le genre de lettre, encore une fois, qui est nécessaire, absolument nécessaire, je crois, et qui ne veut rien dire si les choses ne sont pas suivies d'actes. Il n'est plus chez Blizzard, mais il a aujourd'hui une société qui va faire des jeux vidéo aussi. Donc, il est encore dans le bain, on va dire. Et donc, ensuite, après ça, je vais continuer à détailler, parce que c'est pas fini. Quelques jours après, on est à 5 jours à peu près de la publication du procès. Kotaku publie un article dans lequel il détaille des conversations entre développeurs pendant une BlizzCon, des conversations sur Facebook de développeurs, dont le fameux Alex Afrasiabi, mais pas que, qui, à propos d'une suite dans un hôtel qui s'appelle la Cosby Suite, la suite Cosby de Bill Cosby. Alors, on sait que Bill Cosby est un prédateur sexuel. Cette conversation date de 2013. En 2013, il y avait eu des accusations, mais le grand scandale n'avait pas encore éclaté. Et certains développeurs ont dit, en fait, c'était une référence au pull horrible que portait toujours Bill Cosby, parce qu'il y avait chez Blizzard une salle de réunion où les tapis étaient de cette couleur horrible, et donc c'est devenu Cosby, machin. À la limite, peu importe. C'est vrai que 2013, c'était pas aussi public. Il serait surprenant que personne n'ait entendu parler de ces accusations non plus dans le groupe. Mais bon, à la limite, pourquoi pas? C'est facile de juger la chose d'ici, alors qu'en 2013, les choses étaient différentes, admettons. Mais la nature des discussions reste ce qui est important. C'est ça, la clé de la chose, en fait. La nature des discussions, c'est hey, « j'amène les meufs dans la chambre. Ok, vas-y, toi, t'es en train d'arriver ? Oui, mais attends, tu sais que tu peux pas tous les épouser. Hein. Mais si je peux, je viens du Moyen-Orient, moi. Ah, mais attends, t'as mal écrit « fuck » au lieu de « marier », de « d'épouser ». Ah, vous venez ? Ok. » Et ça, c'est une discussion qui a lieu entre les développeurs du jeu dans une messagerie privée sur iPhone, et c'est un screenshot, et quelqu'un l'a posté, c'est Alex Afrasiabi qui l'a posté sur Facebook en discutant avec ses amis, et disent « Ah, mais c'est le meilleur chat de l'histoire de l'humanité, ha ha ha, trop fort, ok, ok. » Et je vous en lis un extrait, mais il y a d'autres choses qui pourraient être détaillées sur cette discussion aussi. Alors ensuite, certains disent, oui, le développeur qui dit « j'amène les meufs », il parlait en fait de sa femme et de sa fille. Genre, c'était une blague, haha, on rigole. Ok, mais ça change pas. Admettons même que ça soit vrai, c'est pas garanti, mais ça change pas la nature de la discussion. Et le fait que des choses comme ça pouvaient se passer, et des choses comme ça pouvaient se passer dans le cadre où, quelques années plus tôt, il répondait à la femme qui demandait si on pouvait avoir des femmes habillées normalement dans le jeu, et la réponse qu'il donnait publiquement, c'était ça. Donc ça dépeint une culture générale de la société, qui, j'utilise des mots légers, qui est clairement problématique. En dehors même de la question de Cosby Suite, ou de la suite Cosby, ou de l'équipe Cosby de la BlizzCon. Vous voyez, c'est des choses qui sont indéniables. On continue dans cette veine. L'équipe de World of Warcraft décide de retirer les références à Alex Afrasiabi qui sont dans le jeu, parce qu'ils ils mettent souvent des références au jeu, à des personnes de l'équipe de développement ou de la communauté dans le jeu. Là, ils annoncent, bon, bah, on va les retirer, ce qui est là encore un truc qu'il faut faire, mais qui n'est pas la solution. Enfin, je pense que personne n'a prétendu que c'était la solution. Et dernière étape, là, on est à il y a 2 jours, la fameuse Frances Townsend publie un article, enfin sur Twitter, publie un tweet disant, publie un tweet avec un article qui parle des problèmes du whistleblowing, des lanceurs d'alerte en Amérique, au milieu de ce scandale qui a été rendu possible par des lanceurs d'alerte, et se met à bloquer des employés de Blizzard qui lui répondent. Alors, je ne doute pas que les employés lui ont répondu de manière pas très polie, peut-être, mais enfin, elle est la Chief Compliance Officer de Activision Blizzard. Elle est celle qui a été choisie pour répondre au problème. Elle se met à bloquer des employés sur Twitter. Enfin, c'est encore une preuve de la problématique de cette personne, mais de la gestion de Blizzard dans son ensemble. Je ne l'ai pas mentionné, mais quelques jours après la publication du message de Frances Townsend signé, Bobby Kotick, le président de Activision Blizzard, a publié un message qui était beaucoup plus dans le ton de ce qu'on a vu chez Jay Allen Brack en disant « Oui, oui, nous allons régler le problème, c'est inacceptable. Notre première réponse était tone deaf, donc n'a pas compris la réalité du problème, on va dire. Et d'ailleurs, vous avez la possibilité de contacter 7 firmes d'avocats qui est une organisation indépendante à laquelle vous pourrez parler de manière anonyme, etc., etc. La firme en question étant, comme de nombreuses firmes, je n'en doute pas, ayant dans une partie de leur conseil, de leur service, des conseils pour éviter la syndicalisation des employés, qui, aux États-Unis, il y a très peu de syndicalisation dans l'industrie du jeu vidéo. Et on pourra en parler dans un instant, même si j'en ai beaucoup parlé en anglais pour le public américain. Je crois que c'est moins problématique le rapport à la syndicalisation chez nous en France, mais on pourra en parler tout de même parce que ça peut valoir le coup. Et donc, cette firme d'avocats a d'ailleurs été celle qui a été retenue par Amazon pour combattre les mouvements de syndicalisation au sein de la société. Donc, ça vous dit quelque chose sur leur intention. A priori, on peut y lire quelque chose sur leur intention dans ce contexte également. Bon, là, on arrive au bout des événements objectifs. Et je peux vous laisser juger ces événements par vous-même. Je crois qu'on dépasse très largement le cas de « ah oui, peut-être, on ne sait pas ». Enfin, on est dans une situation qui est assez indéniable. Et je voudrais parler d'une ou deux choses qui sont issues de mes longues réflexions et de mes nuits à ne pas dormir pendant mes vacances au milieu de tout ce problème. La première d'entre elles, la première de mes réflexions, c'est une question sur la responsabilité dans cette affaire. Et la responsabilité de nous tous, de tout le monde. Si on évoque encore une fois l'histoire du panel de 2010 à la BlizzCon avec la femme qui demande si on peut avoir des personnages féminins qui n'ont pas le physique de quelqu'un qui sort, enfin, qui ne sont pas habillés comme des femmes qui sortent d'un catalogue de Victoria's Secret. C'était donc en 2010 à la BlizzCon, gros événement communautaire. À l'époque, moi, je travaillais pour la société et je pense que j'étais à ce moment, au moment du panel, dans une pièce au premier étage en train de staffer des interviews de développeurs. Donc, je pense que je ne l'ai pas vu en direct. Ceci dit, moi, ce que je faisais après les conférences, après les journées de travail, c'est que, étant un grand fan de jeux vidéo et de jeux Blizzard, bah, je rentrais dans ma chambre d'hôtel et je regardais les conférences de la journée que je n'avais pas pu voir. Donc, il n'est pas du tout impossible que j'ai vu cette question, que j'ai vu cette réponse. Je ne m'en souviens pas, mais vraiment, je serais pas du tout surpris si je l'avais vue. Et bah, ça ne m'a pas vraiment fait réagir. Enfin, j'imagine que sur le moment, je me suis dit « Ah, mais quelle réponse de con !» Franchement, il aurait pu dire autre chose, ou ah voilà, encore un connard, ou je sais même pas, encore un connard. J'ai sans doute travaillé avec Afrasiabi ensuite, parce que je gérais des interviews et ça m'a pas marqué plus que ça. Au-delà peut-être d'une réaction sur le moment que j'ai vite balayée. Et en la regardant aujourd'hui, on est tous d'accord, ça me donne envie de vomir. C'est insupportable. Et je pense qu'on est nombreux à l'avoir vu à l'époque. Peut-être pas vous spécifiquement, mais peut-être que vous l'avez vu, que vous vous en souvenez pas. En tout cas, je suis sûr que de nombreuses personnes dans notre communauté de fans de Blizzard l'ont vu. Et c'est pas devenu un scandale. C'est pas devenu un scandale, alors que c'est inacceptable. Ça aurait dû mener au... Je sais pas si on peut dire, pour cette question, au renvoi de la personne, mais au minimum, des excuses publiques et contrites. Au minimum. Et un mouvement général. Enfin, on était avant Gamergate, on était avant MeToo, mais on était dans une situation qui était... Enfin, la question reste la question, et ça aurait dû, tous, ça aurait pas dû passer, ça aurait pas dû passer, et on l'a laissé passer. Je vois, depuis donc le scandale, des gens que je connais, que j'apprécie, que je respecte, des femmes qui témoignent. Et je l'ai évoqué un tout petit peu, mais en y repensant, je vois des choses qui auraient dû, au minimum, me donner la puce à l'oreille. Des femmes qui disaient, qui évoquaient, ah, tu sais, quand on parlait des scandales de Riot ou de Ubisoft, ou d'autres, des femmes qui disaient, tu sais, quand ça va sortir sur Blizzard, ça va finir par sortir. Et ma réaction, c'était pas, attends, mais quoi ? Dis-moi en plus, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas un journaliste d'investigation, mais je fais partie de cette communauté. Ma réaction, c'était sans doute « Ah merde, elle a dû avoir une mauvaise expérience. Hein. Pouf, encore une preuve qu'il faut changer l'industrie. » Ah bah bravo, Patrick. Ma réaction, c'était pas « Mais dis-moi en plus. » Et si elle ne veut pas en parler, peut-être qu'elle ne veut pas en parler, mais... Ma réaction, ce n'était pas de voir cette collègue avec laquelle je travaillais directement, qui bossait 10 fois mieux que les autres, qui rendait toutes les choses possibles, qui était une rockstar pour moi. Voir qu'elle faisait des tâches de petites mains à la BlizzCon, année après année, après avoir prouvé sa valeur. Et je me disais, à la BlizzCon, tout le monde met la main à la pâte, ok. Et aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que... Enfin, clairement, c'était, j'imagine, parce que elle était... poussée vers le bas par ses collègues. Et elle a finalement eu un titre de PR manager, elle a évolué, et on lui a dit « Ah ben n'en parle pas trop parce que ça peut faire des jaloux. » Alors que pendant ce temps, ses collègues hommes étaient promus facilement et passaient leur soirée à boire et à faire les cons et leur journée à jouer aux jeux vidéo. Alors, j'allais dire, je ne sais pas qui spécifiquement, mais enfin, c'est elle qui témoigne et c'est elle qui le dit, et je la connais et je lui fais confiance, et je l'ai vue. Et je n'ai pas été lui demander, j'ai vu qu'elle n'était pas bien sur Twitter, et je n'ai pas été la voir, lui demander, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, on n'était pas les meilleurs amis du monde, mais on a travaillé ensemble toutes les semaines pendant plusieurs années. J'aurais dû. Et je crois qu'on est tous responsables de ça, tous nous, les... Encore une fois, ça va en gêner certains, mais nous, principalement... les hommes blancs cisgenres, parce qu'on est dans cette situation où on n'a pas besoin de se poser ces questions. Et évidemment, on n'est pas tous responsables au même niveau. Évidemment, les gens qui sont les plus responsables sont les gens qui faisaient ce genre de choses, on est d'accord. Après, il y a les gens qui couvraient. Et à ce propos, je pense que c'est assez clair dans la communauté aujourd'hui, mais il y a des gens qui ont commencé à dire « Ah oui, l'influence d'Activision prouve encore sa négativité, voilà, ça fait plusieurs années que ça dure, les jeux sont mauvais à cause d'Activision, les jeux sont monétisés comme ça à cause d'Activision, et tout est la faute d'Activision. » D'une part, c'est discutable pour tout le reste, mais là, je pense qu'il est clair que ça remonte bien plus loin que la prétendue influence négative d'Activision, et ça remonte en fait à un moment... où les fondateurs de la société, ce qu'on a comme date et éléments précis, où les fondateurs de la société avaient les mains sur le volant. Et donc, je crois que ça dénote d'une culture qui a évolué en tout cas depuis le début. La société a été fondée, je crois, en 95. Bon, elle était fondée par des mecs qui ont peut-être pris le melon ou qui ont baigné dans cette culture toxique. Et ça a évolué comme ça. Alors, on ne sait pas à quel point Morheim était au courant. Au minimum, il aurait dû être au courant, je crois. Et Il ne l'a pas fait parce que pour lui, il ne l'a pas vu peut-être, ou il l'a vu et il a fait que il pensait avoir réglé le problème. On va reparler de ça dans une seconde. Je voudrais finir sur la question de la responsabilité. Tout le monde n'est pas responsable au même niveau. Quelqu'un qui était à un poste de leadership, évidemment, est plus responsable que, je ne sais pas, par exemple, un joueur qui ne fait que jouer au jeu. Mais il y a un panel. Je crois que la culture toxique du jeu vidéo est présente partout. Et peut-être que grâce à Gamergate, grâce à MeToo, grâce au scandale chez Riot et Ubisoft, on s'en rend un petit peu plus compte aujourd'hui. Et j'espère qu'aujourd'hui, tout le monde, quand on entend quelque chose qui est inacceptable en chat, dans un jeu, je ne dis pas qu'il faut partir en croisade à chaque mot, mais au moins dire « Ah bah non mais c'est pas cool, arrête !» Si on a un pote qui dit quelque chose, bah, ça suffit. Si on a un pote qui est ouvertement sexiste et misogyne, c'est compliqué de dire au revoir à ses potes, mais si c'est quelqu'un qui fait partie d'un groupe, d'une guilde, on lui dit « Désolé, on n'accepte pas ça ici. » Et s'il ne change pas son attitude au bout d'un moment, bah, peut-être qu'on peut le faire sortir. Ça, c'est au niveau des joueurs, et on n'est pas forcément tous confrontés à ça, mais je pense que certains d'entre nous le sont. J'espère qu'on a ce type de réaction aujourd'hui. Mais les influenceurs, les podcasteurs, les youtubeurs, les twitchers, les gens qui font partie de cette communauté, j'ai vu certains, et comme je le disais, j'en ai beaucoup parlé, donc je suis désolé si vous avez déjà entendu ça en anglais, mais certains ont héroïquement montré que, enfin dit qu'il était important de ne pas harceler les gens, parce qu'il y a des gens qui ont trouvé comme solution au problème d'aller dire aux employés de Blizzard « Ta société est inacceptable, tu devrais démissionner tout de suite, pourquoi tu travailles chez eux, tu es complice », y compris à des femmes qui sont victimes, ce qui est quand même... Mais bon, à la limite, je peux... Peut-être que c'est la réaction, la manière dont on... La frustration, la rage qu'on ressent, bah c'est comme ça qu'on va l'exprimer. Admettons, à la limite, que ça soit un errement clairement regrettable et même critiquable. Mais bon, à côté de ça, il y a donc des gens de la communauté, une personne en particulier à laquelle je pense, qui a dit « Non, il ne faut pas faire ça. » Ok, très bien. Il ne faut pas faire ça. Rendez-vous compte, c'est des gens qui, alors en dehors du fait qu'ils n'ont pas de sécurité sociale ou d'acédique digne de ce nom aux États-Unis, c'est des gens qui ont... peut-être déménager à l'autre bout du pays pour ça, qui ont... Enfin, c'est pas juste, on peut quitter la boîte. Et au-delà de ça même, ce que disent d'ailleurs les victimes elles-mêmes et les gens qui essayent de travailler à améliorer les choses, ce qu'ils disent, c'est on peut pas avoir tous les bons, entre guillemets, qui partent. Parce que sinon, il reste que les pourris. Et le but, au-delà de ça, moi, ce que je dirais, et ce qui est, je pense, un écho de ce que disent beaucoup de gens, le but de... Tous ces problèmes, enfin notre but face à tous ces problèmes, c'est pas de raser l'industrie du jeu vidéo, c'est même pas de raser Blizzard, c'est de l'améliorer. C'est d'améliorer l'industrie du jeu vidéo de l'intérieur, de faire en sorte que tout ça ne se passe plus, que ça devienne un mauvais souvenir. Et donc il faut faire un effort pour que tout ça soit possible. Évidemment qu'il va falloir, je pense, renvoyer des gens. Comme ça a été le cas d'ailleurs chez Ubisoft. Et je me perds parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais chez Ubisoft, il y a eu un témoignage assez déprimant d'employés d'Ubisoft qui ont dit, vous vous souvenez, on en parlait l'année dernière, on en a longuement parlé de ce scandale chez Ubisoft et du fait d'ailleurs que, à leur crédit, de nombreux responsables qui étaient impliqués dans les scandales ont été renvoyés alors que beaucoup les pensaient intouchables. Ça, c'est une bonne chose, évidemment. Mais aujourd'hui, le témoignage de plusieurs centaines d'employés d'Ubisoft suite au scandale de Blizzard a été « Bien sûr, nous sommes avec vous », mais d'autre part, nous sentons que les changements sont chez Ubisoft, au-delà des renvois de personnes, sont de surface et que la culture de l'entreprise reste problématique. Et ça, c'est évidemment... Bah, très problématique. Et on va en reparler dans une seconde. Mais donc, pour revenir à la question du harcèlement. Donc, des influenceurs qui disent « Ah bah non, il ne faut pas harceler les gens. Non, non, c'est pas bien d'harceler les gens. » Évidemment, c'est important que ça se produise. C'est important que ça se fasse. C'est important que des gens comme eux, qui sont des leaders d'opinion, le disent. Mais ce que je regrette, c'est qu'il n'y a eu à aucun moment un regard sur... la manière dont cette personne gère sa communauté. C'est une personne qui, et il y en a d'autres, hein, il y a des gens que j'appelle les vendeurs de rage, les vendeurs d'énervement, les anger mongers en anglais. Et il y en a plein hein, sur Twitch, Twitter même, YouTube. C'est des gens qui ont fait leur marque sur la rage et on déteste cette société. Et les employés, ils font ceci et cela et la direction, c'est tous des pourris. Et évidemment qu'on peut critiquer les sociétés. On le fait, enfin, j'espère, nous tous. Mais la manière dont on le fait, c'est en appuyant sur la toxicité. Et cette personne, on lui a dit à de nombreuses reprises, et encore une fois, il y en a d'autres, ta communauté est toxique, tu es toxique. Il y a une femme qui, en réponse à un message similaire qu'il postait, lui disait, tu te souviens quand on a eu une interview ensemble et que ta communauté était tellement toxique que j'ai dû interrompre l'interview, je suis parti. Tu t'en souviens de ça? Et lui, il dit, ah mais non, mais attends, moi, je ne peux pas gérer ma communauté, hein. Moi, c'est, enfin, je peux pas, je suis pas responsable de ce qui se passe dans le chat de Twitch. Et ils ont discuté un petit peu après, mais le truc, c'est pas de gérer au moment de l'interview le chat de Twitch. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de réfléchir à la manière dont on alimente la communauté sur le long terme. Ce qu'on dit, la manière dont on le dit, la manière dont on pousse à la toxicité ou non. C'est ça qu'il faut regarder. Et malheureusement, je crois qu'il y a trop de gens qui ne sont toujours pas capables de... Même pas capables, qui veulent pas le faire, parce que pour eux, c'est pas eux le problème. Et c'est pas nous le problème, et c'est pas moi le problème. Attends, moi, j'ai rien fait. Bah, regarde Afrasiabi et la suite Cosby à la BlizzCon. Oh, quelle horreur! Ah, bah, eux, vraiment, ils sont horribles. Oui, d'accord, c'est très bien, c'est facile. C'est pas moi le problème. Moi, j'ai rien fait. Et je crois, encore une fois... Et je le dis pour la dernière fois, peut-être qu'on n'a pas tous une mesure de responsabilité, mais je crois qu'il faut qu'on se pose tous la question. Qu'on se regarde objectivement, sans jugement excessif, sans se dire, se condamner immédiatement, je suis une personne horrible, parce que le but, c'est pas de je suis pas en train de dire, ah, il faut qu'on se flagelle, on est tous horribles, nous, les hommes blancs, on est des monstres. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on améliore les choses, qu'on s'améliore nous, qu'on améliore la situation, l'industrie. Clairement, ça, c'est pas assez ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et malgré Gamergate, et malgré MeToo, ça continue à se produire chez Blizzard, dans l'industrie, dans la société tout entière. Et certains vont se dire, ah bah oui, les gros AAA, les gros éditeurs, c'est vraiment la merde chez eux. Non, c'est pas que chez eux. Quand je dis on est tous responsables, c'est pas que chez les gros. Encore une fois, si on écoute les témoignages, c'est partout dans l'industrie. Et quand je dis partout dans l'industrie, c'est pas chez tous les gros développeurs. C'est chez les indés, et parfois même pire qu'ailleurs chez les indés, et on l'a vu avec différents scandales, c'est chez les indés, c'est chez les développeurs de taille moyenne, c'est partout. Partout. C'est pour ça que je dis on est tous responsables. Et parce qu'on a... on s'est autorisé à ne pas le voir chez Blizzard. Et il y a des gens qui vont dire « Ah bah attends, non, moi je le savais, hein. Moi je m'en doutais bien que chez Blizzard c'était pareil. » Ok, il y a des gens qui savent toujours tout, qui le savaient. Ok, peut-être que vous étiez... Mais à ce moment, vous étiez où Vous étiez où quand vous en parliez peut-être de chez Blizzard? Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui... Et je crois, c'était un sentiment général, une faute, mais on pensait que Blizzard, même si on était conscient de l'ensemble de l'industrie, on pensait que Blizzard, bah, c'était un peu l'exception. Et on est responsable de ça. Je pense que le message sur ce point, enfin, cette réflexion que je veux exprimer est assez claire. Sur d'autres choses qu'on peut faire, il y a la question de la syndicalisation aux États-Unis qui est importante. Et il y a un sentiment antisyndicaliste qui va plus loin que ce qu'on peut penser ailleurs, en Europe notamment, et qui est vraiment problématique parce qu'il y a cette idée que les syndicats aux États-Unis, cette idée que les syndicats sont la mort de l'entreprise. Et je crois qu'on a, et en France aussi, je vais parler de la France parce que je connais, il y a un sentiment d'opposition entre les syndicats et le patronat de manière un petit peu caricaturale parfois. Mais je crois que personne ne penserait que les syndicats ne devraient pas exister, contrairement aux États-Unis. Je crois qu'en France, certains regrettent certaines positions jusqu'au boutisme de syndicats, certains disent on pourrait faire les choses autrement, certains partent du principe qu'il faudrait peut-être comme en Allemagne. Et je suis désolé si vous pensez qu'on parle dans des sujets politiques, mais c'est ce dont on parle. On parle de la société et de l'intention politique, c'est l'intention naturelle des changements dans la société. Donc forcément, on ne peut pas ne pas parler de ces choses-là. J'espère que je le fais de manière assez neutre et objective. J'essaye en tout cas, mais sur les questions des syndicats, on peut dire bon, bah, certains pensent qu'il faudrait que la syndicalisation soit obligatoire, de manière à ce que ça soit représentatif de tous les employés, ce qui est peut-être moins le cas aujourd'hui où il y a les éléments les plus actifs et donc les plus revendicateurs qui sont représentés dans les syndicats. Peut-être que ça pose un problème à certains, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce que je veux dire, c'est que je crois que personne ne va dire qu'il ne faut pas que les syndicats existent. Personne, enfin, d'une manière générale, on comprend l'importance d'avoir la voix des employés qui est portée devant la voix des entreprises, de manière à ce qu'une discussion puisse exister. Donc, je ne vais pas trop insister sur ce point, pour nous, en français et en France, et dans les pays francophones, parce que ce n'est pas aussi problématique qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a vraiment un sentiment anti-syndicaliste qui est violent et ils ne comprennent pas l'importance. J'ai fait cette analogie avec le système judiciaire.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dans le système judiciaire, parfois, il y a des jugements qu'on peut critiquer, des technicalités qui vont faire qu'une personne coupable va s'en sortir ou ce genre de choses. Mais personne ne dirait bah, « faut pas qu'il y ait de juge, faut pas que les criminels soient redevables devant la société et qu'on les mette devant des juges pour qu'il y ait un jugement et une condamnation ». Le système judiciaire, on ne voudrait pas qu'il disparaisse, évidemment, même s'il y a des problèmes. Bon, c'est cette similarité que j'ai essayé d'établir avec les problèmes de syndicats. Avec cette notion tout de même que Hollywood, c'est un exemple aussi que je donne, Hollywood est extrêmement syndicalisé. Encore une fois, les syndicats fonctionnent de manière très différente aux États-Unis et en France. Tous les employés d'Hollywood, enfin tous les travailleurs d'Hollywood, quasiment, font partie d'un syndicat. Il y a les Producers Guild of America, Directors Guild of America, etc. Et les gaffeurs, enfin les électriciens, les mécaniciens, tout ça. Moi, j'ai travaillé dans le cinéma, donc je connais un petit peu ça aussi. Et je peux vous assurer que quand on n'a pas des règles claires qui sont établies, ça dérape très, très vite dans les domaines du cinéma et de la télévision. Parce que c'est des projets qui sont monumentaux. Et ça ressemble d'ailleurs beaucoup à ce qui se passe dans le domaine du jeu vidéo, sauf que dans le domaine du jeu vidéo, ça dure sur 2, 3, 4, 5 ans. Ça mène à des problèmes comme le crunch et la culture toxique d'entreprise qu'on constate aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que la syndicalisation, même si ce n'est pas la solution ultime à tout, est importante, je crois, dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, parce qu'il faut que les employés aient une voix. Enfin, un employé seul n'a pas de voix, tout simplement, et puis il faut qu'elle soit portée par un groupe, il faut que tout simplement ils se regroupent et puissent parler et puissent être entendus. Et je crois que, évidemment, en France, la syndicalisation ne résout pas tous les problèmes, on le constate bien, on l'a constaté chez Ubisoft et ailleurs, mais c'est une pièce du puzzle. Et puisque j'évoque la France, je veux mentionner aussi dans la question de la responsabilité, ma première réaction quand on a entendu parler de ces scandales, ça a été « Ah bah heureusement que moi j'étais en France et qu'on avait beaucoup d'employés et eux, S, et des managers, des femmes dans des positions de managers. Donc, pfiouf, ah, heureusement, chez nous, ça s'est bien passé. Hein. » Et j'y ai travaillé 5 ans. Et puis, je me suis dit, mais... C'était de 2009 à 2014, pour ceux qui ne savent pas. Et puis, je me suis dit, mais attends une seconde, peut-être qu'il faudrait que tu poses la question. Donc, j'ai envoyé un ou deux emails. Et je constate que des problèmes de harcèlement, moi je pensais vraiment que c'était, qu'il n'y en avait pas, enfin pas, on ne peut jamais partir du principe qu'il ne va y avoir aucun connard dans des sociétés. Donc je pouvais imaginer qu'il y en avait un ou deux problèmes réglés par les HR, les ressources humaines, dont on a constaté d'ailleurs, ah je ne l'ai même pas dit, j'ai oublié de le dire, vous vous souvenez de cette suite Cosby, avec la photo, avec le portrait de Bill Cosby, il y avait un responsable ressources humaines dans la photo. Donc c'est pour montrer à quel point les responsables des ressources humaines ne travaillent pas pour les employés, mais pour éviter des problèmes à la société, en tout cas dans les exemples qu'on a vus ici. Je ne veux pas insulter tous les responsables de ressources humaines, je suis sûr que leur travail est compliqué dans cette industrie en particulier, mais on le constate, elles ne font pas le... ces responsables, ils, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit « elles » automatiquement, parce que c'est vrai que souvent les responsables des ressources humaines sont des femmes, en tout cas dans mon expérience, mais « ils » et « elles », ces départements ne remplissent pas leur rôle d'aider les employés dans ces cas-là. Et c'est pour ça, j'y reviendrai dans une seconde et je vais conclure là-dessus, qu'on a besoin d'audit externe, clairement. Mais donc, il y avait le responsable des ressources humaines dans cette photo. Et je parlais de ressources humaines, je ne sais même plus, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais il n'aide pas dans ces situations, on l'a constaté. Donc, pour revenir à cette personne qui disait « il ne faut pas être toxique », bah oui, il faut qu'on regarde soi-même avant de commencer à parler des autres. Ou même pas, je ne veux pas le dire de manière agressive, parce que il y a une réaction dont je veux parler également, qui est une réaction de rejet, une réaction défensive quand on est accusé de ce genre de choses. Et je crois qu'elle est naturelle et il ne faut pas nier le fait qu'elle est naturelle. Quand on vous dit, quand vous regardez les choses et on vous dit « Ah, c'est la responsabilité des hommes blancs cisgenres », ou quand on vous dit dans une relation que vous avez eue avec quelqu'un « Ah, mais toi, tu as dit ça, tu sais, c'est limite ». Première réaction, c'est naturellement, c'est de dire bah, « Ouah, attends une seconde, moi j'étais pas dans la suite Cosby, j'ai jamais agressé personne. Moi je suis pas allé attraper les seins d'une collaboratrice alors qu'elle était en train de discuter avec des amis. Pourquoi tu m'accuses moi ?» Et c'est naturel de se dire ça. Et je crois qu'il faut comprendre que ce sentiment est naturel, le comprendre, l'internaliser, le mettre de côté pendant quelques minutes, et se dire, ok, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à cette conclusion? Qu'est-ce qu'elle ressent? Et pourquoi est-ce qu'elle ressent ça? Et peut-être même si, au final, après avoir réfléchi à la question, on se dit, ok, bon, moi, je pense que je ne suis pas dans cette catégorie, peut-être pas lui dire, ah, mais attends, ça va, moi jamais. Hein. Et dire, ok, je comprends. Et y réfléchir, et avoir un petit peu d'humilité. Combien de fois j'ai eu cet instinct de me dire bah, attends, non mais moi, non, pas du tout, pas moi. Et j'ai dû prendre sur moi et me dire, ok, Patrick, calme-toi, ta vie est tranquille, t'as pas vraiment de gros problèmes, comparé à ces gens-là surtout. Tu peux peut-être réfléchir à la chose calmement et dire, ok, je comprends. Ou peut-être même, ok, désolé. J'ai eu des interactions où les gens sont revenus vers moi, je voulais... Ma première réaction, ça a été d'avoir des femmes venir témoigner de leurs problèmes dans mes émissions. Et peut-être que ça se produira spécifiquement sur ces problèmes à l'avenir, mais j'ai discuté avec plusieurs femmes, certaines étaient intéressées, certaines m'ont dit je préfère pas, certaines même m'ont dit, tu sais, si t'étais pas au courant des problèmes dans l'industrie, je suis pas sûr que je veux venir dans ton émission. Et ma première réaction, parce que j'avais posé les questions de telle ou telle... Ma première réaction, c'était de dire « Mais si, je suis au courant, attends, mais oui, je veux aider, moi !» Et c'était ma réaction, et j'ai dit « Ok, je comprends, je suis désolé, merci de ta réponse. » C'est très poli, hein. La nana, elle ne m'a pas accusé ou quoi que ce soit. Elle a dit « Écoute, voilà la situation, voilà mon point de vue, voilà ce qu'il en est. » Et j'ai dit « Ok, je comprends. » J'ai combattu mon premier instinct, j'ai dit « Ok, je comprends, je suis désolé. » Merci de ta réponse. Elle m'a dit « Ok, merci de ta compréhension. » C'était complètement poli et amical même. Mais mon premier instinct, c'était « Et il faut comprendre que le premier instinct, je crois, est naturel de dire ça, mais il faut le regarder, l'observer de l'extérieur presque, et un petit peu le combattre d'une certaine manière. Le mettre de côté, encore une fois, et puis observer la chose, l'interaction, la discussion, de manière un petit peu objective ou l'évaluer de cette manière. Donc ça, c'est un point qui est important, je crois. Un autre point, c'est évidemment ce que j'aimerais voir de la part de ces leaders dont j'ai parlé à plusieurs reprises, les Mike Morhaime, les Chris Metzen, les Rob Pardo, les J. Allen Brack même, les Bobby Kotick. Je pense qu'une chose importante, et peut-être que c'est juste une idée ridicule, mais une chose qui me paraît importante, c'est de réaliser à quel point on a vu, il y avait un article assez intéressant de Niccolo Laurent, qui est un ami de l'émission, je peux le dire, qui est le président de Riot. Et qui écoute cette émission régulièrement, peut-être même qu'il écoutera cet épisode. J'en ai pas trop parlé parce que c'est pas vraiment le sujet de cette relation que j'ai avec lui, mais comme il a même été présent dans l'émission, je veux le mentionner. Riot a eu évidemment les gros problèmes dont on a entendu parler il y a 2 ans, qui étaient dans la catégorie de ce dont on parle aujourd'hui. Et je crois qu'une des leçons qu'on a eues ces derniers temps, c'est de ne pas juger du succès des initiatives par ce que disent les leaders, les managers, les CEO, ou ce que disent en fait même les hommes qui observent. Ce n'est pas à nous de dire si ça fonctionne ou pas. Les gens qui peuvent nous dire si ça fonctionne, c'est les employés, évidemment, les employés principalement, qui font partie de ces minorités, les femmes, les personnes racisées, etc., les personnes dont qui font partie de la communauté LGBTQ. Et c'est à eux de nous dire. J'ai vu à de nombreuses reprises, pas de nombreuses reprises, c'est pas vrai, mais à plusieurs reprises, des gens qui venaient s'exprimer sur à quel point c'était scandaleux, ces histoires de harcèlement, et à quel point c'était inacceptable. Et la première réponse, c'était une femme qui faisait partie de Blizzard, par exemple, et qui disait « Non mais tu rigoles, moi j'étais en pleurs dans ton bureau le premier jour de mon boulot, donc tu me fais rire avec tes histoires. » Et j'ai vu, par opposition, des personnes dont les femmes victimes disaient « Cette personne m'a aidé, cet homme m'a aidé, il a été présent pour moi, il s'est battu pour moi auprès de la hiérarchie. » Et il y en a eu quelques-uns. Et ces personnes sont ces personnes auxquelles je peux aujourd'hui faire confiance. Et par extension, les autres, je ne sais pas. Certains, peut-être pas, je suis... Bon, s'il n'y a pas d'accusation, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais je reste prudent. Les seules personnes auxquelles je peux vraiment faire confiance, c'est ces personnes pour lesquelles des femmes ont témoigné de leur... ont mis leur sceau d'approbation, on va dire. Et par extension, dans ces grands scandales, le seul moyen dont on peut savoir si ça marche ou pas, c'est le témoignage des employés qui souvent passent par des investigations de journalistes précieuses, les investigations et précieux, les journalistes, qui parlent de ces choses-là. Et on l'a vu, on a vu leur rôle dans la révélation des scandales, et on l'a vu moins souvent, mais j'espère que ça va continuer, dans des follow-up, dans des histoires qui ont lieu, qui sont publiées un an après. On l'a vu dans le cas de Riot. Ça semblait être allé dans le bon sens, et j'ai entendu encore une fois des témoignages d'employés, eux, S, qui disent « ça va dans le bon sens ». Donc, même s'il y a encore des problèmes, et on entend encore parler de problèmes, moi, j'aurais tendance à écouter les personnes qui sont victimes et qui sont au sein de la situation et qui disent « écoute, c'est pas parfait, mais ça va dans le bon sens ». Donc, bon. Et il y a encore des problèmes, encore une fois, chez Riot, tout n'est pas réglé, mais je crois qu'il est également naïf de penser qu'on va pouvoir régler toutes ces histoires en quelques mois, ou même un an ou 2 ans. C'est un processus qui va prendre des années et qui va nécessiter la participation de tout le monde. La raison pour laquelle j'évoque toute cette histoire de Riot et de Niccolo, c'est qu'il avait publié un article qui me paraissait intéressant sur ce sujet, suite à tous les problèmes qu'ils ont eus chez Riot, et qu'ils ont visiblement essayé de résoudre, et encore une fois, dont certains employés au moins, même quand ils parlent, il et elle parlent de manière anonyme, semblent dire que ça va dans le bon sens, au minimum. Eh bien, il a publié un article où il disait, l'un des problèmes, je vais paraphraser son article, mais l'un des problèmes qu'on a constaté, c'est que le management semble penser faire quelque chose quand il règle les problèmes qui lui sont présentés. C'est-à-dire qu'on a un problème, parfois sérieux, qui est présenté au manager, aux execs, et qu'ils vont dire « Ah, mon Dieu, ça c'est inacceptable. Cette personne, bon, on va la pousser dehors, on va la réprimander, ou... mais bon, on a géré. Hein. » Et peut-être une fois, deux fois, trois fois par an, ça arrive, parce qu'encore une fois, il ne peut pas y avoir... dans la meilleure configuration, on peut imaginer qu'il ne peut pas avoir une société sans connards, il y aura toujours des connards, ok, bon. Le réel problème dont il parle, et ça me semble correspondre peut-être possiblement à la réalité, c'est qu'il y a 10 fois plus, 20 fois plus de problèmes qui ont lieu dans l'entreprise. Et comme on a la peur de ne pas être entendu, la peur de représailles, la peur d'être ostracisé, la peur que les ressources humaines ne vous aident pas, et au contraire, eh ben personne n'explique, personne ne parle. Et c'est pour ça que quand les problèmes sont révélés par un article ou un procès, tout à coup, toutes ces voix sortent. Et le problème est un problème de culture profonde, de culture d'entreprise, et de culture d'industrie, et de culture de société. Mais c'est un problème qui est plus profond que les cas qui sont présentés au management. Et ces cas-là sont des sortes de symptômes. Et quand on règle ces cas-là, on se préoccupe des symptômes et pas des causes. Et donc, les personnes, admettons qu'elles soient bien intentionnées, admettons que Mike Morhaime ait voulu implémenter, ce qui est encore une fois difficile à croire, mais j'ai aussi entendu des témoignages de femmes qui disent « mais tu ne te rends pas compte de la distance qu'il y a entre les employés de base et les présidents ». Des femmes hein, qui ont été victimes de ces problèmes très directement. Et d'autres qui disent les CEO, au minimum, doivent savoir, et je crois que je m'inscris dans cette argumentation, et Mike Morhaime aurait dû savoir au minimum. Mais bon, on constate qu'il ne peut pas savoir. Il ne peut pas parce que c'est physiquement impossible. Mais dans la réalité, ils ne savent pas. C'est peut-être un meilleur moyen de le dire. Ils ne savent pas. Les gens qui sont à la tête, s'ils devraient savoir au minimum, et ben même là, ils ne savent pas. Donc ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est mettre en place des systèmes qui rendent impossible le fait de ne pas savoir. Ce que je voudrais de la part de personnes comme Morhaime ou comme Metzen ou comme Pardo ou d'autres, il y a eu genre 5 ou 6 sociétés différentes qui ont été formées par des employés de Blizzard, qui d'ailleurs, aujourd'hui, on se pose la question de savoir si c'est pas Activision qui a nettoyé. Je pense que c'est peu crédible comme idée, mais... peut-être que Activision s'est rendu compte, Bobby Kotick s'est rendu compte de ces choses-là, il a dit, mais ok, peut-être parce que c'est dangereux au niveau de l'image, ou peut-être parce qu'il était clairement scandalisé, j'en sais rien, peut-être qu'il a dit, bah non, on nettoie tout ça, vous partez, je sais pas. Alors, c'est encore une fois, je pense qu'on a l'impression, en tout cas, que c'est pas dans la politique de la maison, mais maintenant, on sait pas. Je me suis rendu compte, par exemple, suite à un tweet de quelqu'un, que Jeff Kaplan, qu'on adore tous dans l'équipe de Overwatch, qui est parti si discrètement il y a quelques mois de ça, son surnom de Tigol, en fait, c'est Tigol BTs, qui est une inversion sur Big Old Titties. Big Old Titties. Les gros lolos, on va dire. On va dire ça comme ça. Alors, c'est certainement un pseudo qu'il a créé, je sais pas, au début des années, à la fin des années 90, il était un abruti comme nous tous dans ses années d'adolescence et il trouvait ça marrant. Peut-être que c'est que ça. Peut-être qu'il y a plus derrière, je sais pas. Mais donc, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que il faut que ces gens qui ont la main sur le volant fasse en sorte qu'il soit impossible pour eux d'ignorer. Mettre en place, par exemple, c'est une idée, encore une fois, peut-être ridicule et qui n'aurait pas de sens, mais mettre en place des structures tierces, fondées, peut-être financées au niveau de l'industrie tout entière, pourquoi pas, ils ont suffisamment d'argent. Et beaucoup de gens parlent de salaires de Bobby Kotick qui, franchement, les salaires de Bobby Kotick sont clairement excessifs, mais il fait de l'argent pour les actionnaires, et les actionnaires, ça peut être n'importe quoi. C'est en partie, d'ailleurs, des gens de l'entreprise qui sont dans l'entreprise, qui d'ailleurs, les femmes gagnent moins d'argent et donc gagnent moins d'argent des dividendes parce que, et des bonus de, sur les performances de la boîte, parce qu'elles sont jugées plus durement, donc c'est un cercle vicieux. Mais bon, par rapport aux actionnaires, vous pouvez, vous, acheter des actions d'Activision. Donc, il fait de l'argent quand Activision fait beaucoup d'argent. Mais le fait de réduire son salaire ne changerait pas la condition des femmes et des minorités dans ces entreprises. Donc, il y a des gens qui ont parlé de ça. Ces gens qui parleraient de ça, et en particulier aux États-Unis, il ferait mieux d'étudier la question de la syndicalisation que de se focaliser sur le salaire de Bobby Kotick. Ceci dit, je suis d'accord, la raison pour laquelle j'en parle, il va gagner, je ne sais plus combien, 215 millions de dollars cette année. Qu'on prenne 100 de ces millions et qu'on les mette sur un fonds indépendant d'audit des sociétés de l'industrie du jeu vidéo, parce qu'on parle de l'industrie du jeu vidéo. 100 millions de Bobby Kotick, peut-être 10 ou 15 ou 20 ou 50 millions d'Activision, de Ubisoft, quelques millions de chez Riot, quelques millions de Mike Morhaime, qui a fait beaucoup d'argent et qui fonde son propre studio, quelques millions de toutes ces sociétés, et on fait un fonds indépendant. Je dis une idée comme ça, c'est n'importe quoi, mais on va voir des académiques qui ont fait un boulot incroyable sur ces sujets. Le nom de Danita Sarkissian me vient à l'esprit, mais je suis sûr qu'il y en a plein et qui sont peut-être intéressés par cette idée, qui surveillent la chose, peut-être même qui gèrent la chose, et les employés peuvent aller vers cette personne. Et quand je dis un fonds indépendant, c'est s'il y a suffisamment d'argent et qu'il est attribué clairement sur le papier et légalement au fonctionnement de ce truc, ça peut fonctionner indépendamment de l'industrie qui ne la financera pas chaque année. Donc, une organisation indépendante vers laquelle les employés peuvent aller pour expliquer ce qui se passe dans les sociétés et qui a un accès direct aux documents, confidentiels bien sûr, mais aux documents de la société, aux emails, peut-être qui fait une sorte de travail d'enquête de ce type-là, et qui a un lien direct avec les présidents, direct, et qui vient faire des rapports tous les mois, peut-être tous les trois mois, je sais pas, mais quelque chose qui leur dise directement comment ça se passe. Peut-être même des rapports publics. Si on a vraiment l'intention de corriger le problème, comme le dit Morhaime, et d'être un acteur de ce changement, peut-être des rapports publics. Je crois que tout le monde sera d'accord, encore une fois, sur le fait qu'on ne peut pas arriver à zéro, ou en tout cas, ça me semble compliqué, il y aura toujours des connards. Mais si le rapport est public, la pression est réelle, on ne peut pas. Et même, vous savez, on peut mettre en place des systèmes où un rapport est privé pendant un mois, trois mois, six mois, un an, et si rien n'est fait, ou si les choses sont... On peut parler des questions d'il y a un an et comment elles ont évolué de manière publique, pour laisser au moins une chance à la société de régler les problèmes. Parce que, évidemment, les sociétés ne vont pas vouloir que tout soit entièrement rendu public. C'est là que ça devient... Oula, attends une seconde. Mais de manière réaliste, si jusqu'à maintenant, et malgré toute cette bonne volonté affichée, ils n'ont pas réussi, et je dis « ils » parce que c'est essentiellement des hommes, ils n'ont pas réussi à se rendre compte de l'étendue des problèmes, même, avant même de parler de les corriger, se rendre compte de l'étendue des problèmes, en quoi est-ce que demain, les choses seront différentes s'ils font les choses de la même manière ? Il n'y a pas de raison que ça soit différent. Et peut-être qu'ils ont d'autres idées, peut-être qu'il y a d'autres systèmes, peut-être qu'il y a d'autres moyens. Clairement, je crois qu'on l'a vu, une firme d'avocats indépendante qui conseille les grandes sociétés pour combattre la syndicalisation des employés aux États-Unis, je ne crois pas que c'est comme ça qu'on va régler les problèmes. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a de la vraie bonne volonté là-dessus, mais j'y crois pas trop. Mais du coup, j'attends de voir les systèmes qu'ils vont mettre en place pour rendre la chose impossible à ignorer. Cette idée d'une organisation, et je dis une grande organisation trans-industrie, me paraît être une bonne idée, mais peut-être qu'il suffirait d'avoir une organisation de taille plus modeste qui gérerait quelques sociétés, ou j'en sais rien, mais ce genre de choses externes, indépendants, qui auditent les et qui a une ligne directe avec les présidents. Ben là, ça serait difficile à ignorer. Je pense, je crois, peut-être qu'il y a d'autres solutions, j'en sais rien, mais il faut que les choses se passent de manière différente de la manière dont ça s'est passé jusqu'à maintenant. Il y a une opportunité particulière dans le monde du jeu vidéo qui est tellement sclérosé et dans le cadre des employés et des ex-employés de Blizzard aujourd'hui, et en particulier de Morhaime et des autres. Je veux entendre ce qu'ils vont faire pour rendre les choses plus pour rendre les choses plus difficiles à ignorer pour eux. Et bon, je crois qu'on a parlé pendant presque une heure et demie. Je crois que j'ai couvert tout ce dont je voulais parler. Et je répéterai que le but ultime est de corriger ces problèmes. Le but n'est pas de détruire Blizzard. Peut-être, moi je ne crois pas, et ce que disent les victimes, ce n'est pas ça. C'est de rester justement dans le maquis. Non, c'est une analogie qui n'est pas très à propos, mais je veux dire dans le thick of it, dans les broussailles, et de se battre, et de corriger, d'améliorer les choses, d'améliorer cette industrie et de la transformer, j'espère. Le but ultime, c'est de la transformer en endroit où une femme peut se dire bah, « j'aimerais travailler dans cette industrie » et pas se dire « ah ouais, mais va falloir que je fasse gaffe à ce qu'on ne fasse pas ceci, ceci et cela ». Et à se faire agresser, harceler et avoir des dépressions nerveuses, comme j'en ai vu tellement. Le but, c'est d'avoir un endroit où les gens peuvent travailler sans avoir peur. Et j'espère qu'on pourra y arriver. Peut-être que ça va prendre 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Mais il faut qu'on se batte pour ça. Et qu'on se batte activement. Et je crois que c'est un truc qui prend du temps. Je le disais tout à l'heure, c'est un truc qui prend du temps. On a eu Gamergate, et je crois que sans Gamergate, sans MeToo, ces choses ne sont pas possibles aujourd'hui. La réaction qu'on voit aujourd'hui, je crois, j'espère, est beaucoup plus outrée et choquée, et par les hommes en tout cas, comme je le disais, que ça n'aurait été le cas il y a 5 ans ou 6 ans. Je crois qu'on n'aurait pas eu un tel scandale il y a 5 ans ou 6 ans, ou certainement avant Gamergate. Donc, je crois que c'est un processus qui est long parce que le mal est profond. Et c'est un problème de culture qu'on ne peut pas changer en un an, qu'on ne peut pas changer en renvoyant 3 personnes. C'est un travail constant sur le long terme. Et j'espère que nous ferons tous partie de cet effort. J'espère. Le prochain épisode sera un épisode plus normal sur l'actualité et l'actualité qu'on a ratée pendant ces quelques dernières semaines. Peut-être qu'on fera une discussion, si vous avez des questions, je ne sais pas, peut-être une discussion entre nous tous en after show sur le prochain épisode, peut-être qu'il sera public du coup, ce coup-là. On verra si vous avez des choses à dire, peut-être que plus personne n'a rien à dire, c'est possible aussi, et que maintenant il faut réfléchir et agir sur le long terme et pas juste faire quelque chose maintenant et pas passer la frustration et ne plus y penser. Donc, on verra. Si vous voulez en discuter, poser des questions et dire ce que vous en pensez, vous êtes les bienvenus dans l'after show. On sera sur Twitch la semaine prochaine, jeudi à midi. Et puis donc en after show après la fin de l'enregistrement de l'épisode classique. Donc voilà, j'espère que vous avez écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Je vous fais des bises quand même à tous, et puis on se retrouve dans une semaine.